Podcast by Tendance Ouest. Fait de vie, Philippe Bertin.
Bonjour. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui pourrait être empruntée à la chanson de Jean-Jacques Goldman et de cette vieille dame qui met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons et qui vit sa vie par procuration. Sauf qu'ici, s'il est bien question de balcon et de vieille dame, à la différence de la rengaine du chanteur, la personne âgée dont je vais vous parler n'est pas toute seule, mais très entourée d'une jolie et large famille. C'est un destin tragique dont il est aujourd'hui question. Je vais en effet vous raconter l'histoire de Thérèse, dont la mort épouvantable quelques jours avant les célébrations de Pâques a ému une commune tout entière et bien au-delà. Thérèse Glinel, 82 ans, c'est elle dont il s'agit, mère de famille, grand-mère et arrière-grand-mère, s'est tuée dans la chute soudaine de son balcon au deuxième étage de son appartement dans l'immeuble qu'elle occupait à Saint-Romain-de-Colbosc. C'est à quelques kilomètres du Havre, en Seine-Maritime, la commune compte un peu moins de 5000 habitants. Cet accident tragique, aussi incompréhensible que soudain, a plongé sa famille, ses amis, ses proches dans une profonde tristesse. Thérèse était aimée de tous, connue de beaucoup et a passé une grande partie de sa vie à s'occuper des autres. D'elle, on pourrait dire qu'elle était à sa façon un bon samaritain et je vais vous raconter en quelques mots ce que fut son parcours de vie et ce qui s'est produit un jour de mars pour que cette vie, précisément, se soit arrêtée si tragiquement.
Fait de vie, Philippe Bertin.
D'abord, reprenons les faits. Nous sommes le mercredi 29 mars. Ce jour-là annonce le printemps et baigné de soleil. L'air est doux, c'est l'une des premières journées de vrai beau temps. Il est près de 15h quand, dans son appartement, un F3 de la cité Saint-Romain, c'est un immeuble propre construit il y a une dizaine d'années et où loge près de 70 foyers, Thérèse Glinel entend comme un bruit sourd à côté de chez elle. C'est un bruit inhabituel, comme un craquement qui la fait sortir sur son balcon alors qu'elle est en train de regarder la télévision. Que s'est-il alors passé dans la minute qui va suivre ? À ce stade, on n'en sait pas grand-chose, sauf que le balcon de l'appartement de Thérèse se détache soudainement du reste de l'immeuble, entraînant dans sa chute la pauvre dame et le balcon en dessous de chez elle. On situe l'accident aux alentours de 15h-15h30, mais ce n'est qu'en fin d'après-midi que les secours seront appelés par le gendre de Thérèse Glinel, venu sur place constater les dégâts. Philippe, c'est de lui qu'il s'agit, a en effet été appelé pour qu'il se rende chez Thérèse sans savoir à ce moment-là que sa belle-mère gît seule sous la mât de béton tombée au pied de l'immeuble. Dans un premier temps, Philippe, qui constate de visu et de l'extérieur les dégâts, se rend dans l'appartement de sa belle-mère. Il s'étonne de ne pas l'y voir et s'étonne aussi de constater que tout est en ordre dans l'appartement et que la télé est toujours allumée. Ce n'est qu'en redescendant l'escalier pour sortir de la résidence qu'il ausculte le bloc de béton et découvre alors le corps inanimé de sa belle-mère. Thérèse a dû être tué sur le coup, ça pèse des tonnes un béton comme celui-là, dit Philippe qui s'y connaît en matériaux. Pourquoi les secours ne sont-ils pas arrivés plus tôt ?
Podcast by Tendance Ouest.
Ce n'est que vers 19h que les pompiers ont été alertés et sont arrivés, soit 4 heures après l'accident et la chute des balcons. Pourquoi n'a-t-on rien perçu de ce drame avant que le gendre de Thérèse ne vienne lui-même personnellement sur place ? Ce sont quelques-unes des questions que pose le drame pour lequel une enquête pour homicide involontaire a été ouverte par le procureur de la République. D'autres interrogations ne manquent pas non plus de se poser. Quelle est la responsabilité de l'entreprise qui a procédé à la construction de l'immeuble il y a 11 ans? Et en filigrane, quelle est aussi la responsabilité du gestionnaire propriétaire de l'ensemble? Y a-t-il eu, au final, des malfaçons, tant dans le choix des matériaux utilisés pour installer ces fameux balcons, que pour le système d'accroche au mur porteur? Philippe Déhay, le gendre de Thérèse, a déjà sa petite idée sur la question. Il remarque que le balcon s'est détaché de façon très brutale et que les structures métalliques qui le retenaient ont été coupées nettes. De là à penser que les choses ont été mal faites lorsque les ensembles ont été aménagés et posés, il n'y a qu'un pas. La famille de Thérèse Glinel a décidé d'engager une procédure qui, elle l'espère, lui donnera des réponses aux questions qu'elle se pose. J'ai souhaité me rendre sur place, là où s'est déroulé le drame. J'y suis 2 jours après que se soit produit l'accident. Au pied de l'immeuble, quelques barrières entourent les blocs de béton qui sont toujours au sol. La scène a été figée par les autorités. Clotilde Heudier, la maire de Saint-Romain, a pris un arrêté de péril afin d'interdire l'accès à l'ensemble des balcons des immeubles concernés, soit 5 bâtiments. Une cellule de crise avait d'ailleurs été activée par la mairie le soir du drame. Plusieurs adjoints et élus ont distribué ce soir-là les arrêtés de péril pour informer les résidents de l'interdiction d'accès au balcon. Dans la commune de Saint-Romain, la stupeur prédomine et les enfants de Thérèse sont sous le choc. Je les retrouve aux côtés de Sandrine Lemoine, la maire de Saint-Vigor-d'Imonville, où Thérèse avait ses habitudes. La commune est située à quelques kilomètres à peine de Saint-Romain, où a eu lieu l'accident. Sandrine Lemoine m'explique qu'elle connaissait bien Thérèse, elle la connaît depuis toujours. Une femme formidable, dit l'élu, en évoquant le souvenir de cette vieille dame dévouée qui passait une grande partie de son temps à s'occuper de la bibliothèque de l'école de Saint-Vigor, la petite école de Lucas, l'un des petits-fils de la vieille dame. Quand les enfants la voyaient, ils lui sautaient au cou, dit encore Sandrine. Avec elle, la bibliothèque marchait droit, tout était parfaitement géré, aucun livre ne manquait. Elle veillait à ce que chaque enfant puisse rapporter son livre une fois qu'il l'avait lu. Elle menait cela avec une main de fer dans un gant de velours. Elle-même adorait lire. Sa fille, peu de temps avant sa mort, lui avait offert un livre de Guillaume Musso. Elle aimait aussi beaucoup les récits évoquant le terroir comme ceux de Christian Signol. Comme un fait exprès, le dernier livre de l'écrivain est intitulé « L'école des beaux jours ». On dirait qu'il a été écrit spécialement pour Thérèse.
Fait de vie, Philippe Berta.
Qui était donc cette femme aimée de tous, reconnue pour son empathie? Pascal et Christine, ces 2 filles, sont devant moi autour de la table de la mairie de Saint-Vigor. Elles me parlent de leur maman comme d'une femme particulièrement généreuse, prête à rendre service. Une femme qui aura marqué de son empreinte la vie de cette région qu'il a vue naître. Thérèse tenait autrefois avec son mari Joël la boucherie-épicerie de Gainville, tout près du Havre. C'est là qu'elle a fait ses classes, après avoir passé en 1966, au moment de son installation, son CAP de bouchère. Ça n'était pas si courant à l'époque pour une femme, disent admiratives ses 2 filles. Le couple avait fait ses classes en région parisienne. Joël, apprenti boucher, avait, me raconte-t-on, l'habitude d'aller boire un petit café au Pied de Cochon, le bistrot célèbre près des anciennes halles de Paris. Il y croisait, paraît-il, un certain Claude François. Pascal et Christine me racontent aussi les tournées que faisait leur mère pour aller livrer les commandes de la boucherie. En plein mai 68, elle passait les barrages, s'arrangeait avec les grévistes pour leur livrer de la viande. Après la boucherie, ce fut l'époque à Saint-Romain du bar PMU que Thérèse et son mari exploitèrent pendant de nombreuses années. Pour la petite histoire, Thérèse fut d'ailleurs l'une des premières gagnantes du jeu à gratter le tac au tac. Avec l'une de ses amies, elle gratta un dernier ticket d'un carnet laissé au fond d'un tiroir, empochant à l'époque la coquette somme de 100 000 francs. Thérèse et son mari achevèrent leur vie professionnelle en tenant ensuite un pressing, toujours à Saint-Romain. Quand le mari de Thérèse, Joël, fut diminué par la maladie, elle l'accompagna jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle. Il s'en est allé un 25 décembre 2011, il avait 73 ans. Elle avait dit à ses filles Quand viendra mon tour, c'est près de lui que j'aimerais pouvoir reposer. Le petit cimetière de Saint-Romain a accueilli cette femme aux cheveux d'argent, dont le sourire était reconnaissable parmi tous. Ses filles m'ont montré des photos d'elle au temps des jours heureux. À chaque fois, on la voit sourire et toujours très entourée. Elle était comme cela, Thérèse, cette femme qui aimait les livres et qui aimait les gens. Bientôt, la bibliothèque de l'école de Saint-Vigor portera son nom. Pour conclure ce récit autour du parcours de vie de Thérèse Glinel, je suis allé rencontrer quelqu'un qui la connaissait très bien. C'est Clotilde Dier, la mère de Saint-Romain. Elle nous parle ici de cette femme qui fut conseillère municipale de la commune. Elle nous parle aussi de ce drame qui a ému tous les habitants de Saint-Romain.
Fait de vie, Philippe Berta.
Dans quel état d'esprit êtes-vous, Madame le maire? C'est le genre de drame qui survient dans une commune qui est extraordinaire.
C'est un fait vraiment, oui, comme vous le dites, extraordinaire, inattendu, de la stupeur, de beaucoup de peine, beaucoup de tristesse pour Mme Glinel, comme vous le disiez, qu'on appelait Thérèse.
Et vous la connaissez bien, Thérèse?
Et oui, j'avais l'habitude de la voir régulièrement, et voilà, c'était une personne avec qui j'aimais bien discuter, qui venait régulièrement dans Saint-Romain, qui avait une vue de la ville et qui, voilà, m'expliquait et me disait ce qu'elle entendait sur Saint-Romain.
Alors, elle est habitante de Saint-Romain, elle a créé une boucherie avec son mari qui, en 1966, une boucherie qui était très connue des gens de la région, puis ensuite elle s'est installée ici, toujours avec son mari, pour diriger un bar brasserie PMU. D'ailleurs, à l'époque, lorsque a été créé cet établissement, c'est Thérèse qui faisait elle-même les repas, m'a-t-on dit, pour les clients. C'était un peu nouveau, d'ailleurs, dans le paysage commercial. Et puis ensuite, elle a eu un pressing. Et je sais qu'elle était très investie dans la vie communale. Et qui plus est, elle a été conseillère municipale de 1995 à 2001, sous le mandat de Monsieur Dupay. Elle était très investie, c'est ça ?
Oui, et c'est pour ça qu'elle a toujours gardé un œil sur ce qui se passait et les différents maires et les différentes municipalités qui se sont succédées. Et en 2020, voilà, quand je me suis présentée maire, elle s'est proposée tout naturellement pour distribuer, enfin tracter, pour notre liste dans sa résidence. Donc c'est pour ça qu'on avait assez souvent l'habitude d'échanger, et en particulier durant cette campagne électorale.
Ces filles que j'ai rencontrées m'ont dit que leur mère était quelqu'un qui avait passé sa vie à rendre service aux autres, quelqu'un de très généreux. C'est aussi l'image qu'elle renvoie, ou l'image que vous gardez d'elle?
Oui, très très généreuse, mais avec une particularité, elle avait un franc-parler. Elle disait ce qu'elle pensait, et c'est ce qui était intéressant dans nos échanges. Et Madame Glinel, enfin Thérèse, était, comme vous le disiez, surtout connue de tous de par son engagement auprès de la commune et aussi son commerce.
C'est un drame qu'on aimerait ne jamais connaître.
Dans un mandat de maire, malheureusement, il y a parfois des drames, c'est des situations particulières auxquelles il faut faire face, auxquelles on doit faire son job, comme on dit.
C'est quoi de faire son job dans pareil cas ?
Dans un pareil cas, c'est soutenir la famille, c'est annoncer malheureusement le décès à la famille, de mettre tout en œuvre pour sécuriser les lieux. Donc on a mis en place un arrêté de péril pour pas que les gens aillent ni sur les terrasses ni sur les balcons. Et c'est suivre aussi, en relation avec la gendarmerie, la suite des événements. Et je pense que l'ensemble des résidents attendent avec hâte une explication de pourquoi ça s'est passé.
Le soir du drame qui s'est déroulé dans le milieu d'après-midi, a priori, même s'il y a une enquête qui va déterminer les circonstances précises de ce qui s'est réellement passé, le soir du drame, vous avez activé une cellule de crise. Pourquoi ?
Mettre tout en œuvre pour sécuriser la population, non pas pour comprendre, mais pour faire ce qu'on devait faire, mettre en sécurité la population. Donc les adjoints et certains élus sont venus, il fallait en urgence faire un arrêté et le distribuer en main propre à l'ensemble des habitants.
Dans cette cité qui compte, je crois, 78 logements, c'est ça, il y a beaucoup de balcons.
Ils ont tous un bal.
Et ils sont tous, si j'ose dire, sous la menace de ce qui s'est passé avec Madame Glinel.
Est-ce que c'est un événement qui concerne uniquement ces deux balcons-là ou est-ce que tout l'immeuble est concerné? Voilà, il n'y a que au troisième, dans certains endroits de l'immeuble, où il n'y a pas de balcon, mais sinon, ils ont tous un balcon et une terrasse. Donc, je peux comprendre et je comprends parfaitement les résidents qui sont dans l'inquiétude et qui se demandent si eux aussi vont être concernés par cette vue.
Certains sont venus vous voir, certains sollicitent la mairie pour une aide particulière?
Non, c'est quand on est allé à leur rencontre au porte-à-porte où on a pu échanger et leur inquiétude, quoi. Donc là, je crois que maintenant, le gestionnaire a dû boulonner les fenêtres et quand vont-ils avoir des réponses? C'est la question.
Est-ce qu'on se sent, en votre qualité de maire, responsable lorsqu'un drame comme celui-là survient dans une commune que vous dirigez, sur un immeuble qui n'est certes pas municipal, mais qui est privé? Est-ce qu'on a quelque part des doutes ou en tout cas des interrogations?
Non, c'est un accident comme il peut y en arriver énormément au sein d'une commune. On se doit d'être là, de faire respecter la loi, de mettre en sécurité la population suite à ce drame. La responsabilité de la collectivité n'est pas engagée, mais un maire doit être là aussi pour rassurer ses habitants.
Madame Glinel actuellement repose à chambre funéraire à l'heure où on se parle parce qu'il y a une enquête, il va y avoir une autopsie, il y a une enquête qui peut durer quelques temps et il y aura vraisemblablement des expertises qui vont être diligentées. Vous avez vraiment, vous, envie de savoir, j'imagine, ce qui s'est réellement passé?
Bien sûr, comme tous les habitants, comme tous les Saint-Romanais et surtout comme la famille, on a besoin, je pense, de savoir. Et c'est pour ça que je suis en relation assez étroite avec la gendarmerie pour suivre le déroulement de l'enquête.
Vous me disiez au début de cet entretien, chagrin, colère, incompréhension, c'est l'état d'esprit dans lequel est la famille de Madame Glinel que j'ai pu rencontrer. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux deux filles de Madame de Thérèse, qui sont Christine et Pascal, que vous connaissez évidemment?
Je les ai vues encore par hasard cet après-midi, voilà, et je leur ai assuré tout le soutien de la collectivité. Bon, ils m'ont fait une demande à laquelle on répondra et leur dire qu'on est là s'ils ont besoin de quoi que ce soit.
Podcast by Tendance Ouest.